Bonsoir. Donc, merci d'être venu pour cette conférence. Je vais rapidement passer la parole à Jérémy, qui vient nous présenter ce qui se passe en ce moment sur ce sujet brûlant qu'est l'ACTA.
Merci. Merci Rodolphe. Merci à tous les passionnés de l'Utopia pour organiser cette rencontre. Merci à toutes et à tous d'être venus ce soir. Nous vivons une époque formidable. Il se passe des choses très très intéressantes. Je n'ai pas envie d'être le seul à en parler, donc j'espère être en capacité de lâcher le plus vite possible le micro pour qu'on puisse échanger surtout sur ce sujet. Alors voilà, je suis Jérémy Zimmermann, je suis cofondateur et porte-parole de l'organisation citoyenne La Quadrature du Net. On est une organisation citoyenne de défense des libertés fondamentales sur Internet. On est une sorte de caisse à outils citoyenne pour permettre à chacun de comprendre comment les libertés fondamentales sont attaquées sur Internet et pour permettre à chacun de participer dans le débat public, d'agir et d'essayer de changer les choses. On a été actif en France sur le débat autour de l'Hadopi. Le Figaro nous a traité de fer de lance de l'opposition contre la loi Hadopi, titre dont je suis très très fier. Mais surtout, dès le début, on a été actif au niveau européen, avec notamment la révision des directives dites du paquet télécom, un gros machin régulateur des télécoms, dans lesquels les industries du divertissement ont tenté à l'époque de placer une sorte d'Hadopi à l'échelle européenne. Et on leur a un petit peu renvoyé dans les gencives à grand bruit. Et depuis un certain temps maintenant, on a été alerté au sujet de l'ACTA. Bonjour, entrez. Et juste comme ça, pour savoir qui parmi vous a déjà entendu parler de l'ACTA. Wow. Qui sait ce qu'il y a à l'article 23 de l'ACTA? Ah. Qui en a lu au moins un petit bout? C'est déjà beaucoup plus que la moyenne. Le micro dans la bouche, on me dit. Non, ah. D'accord. Alors, voilà, à tout moment, si vous n'entendez pas, n'hésitez pas à faire des grands gestes paniqués en l'air, ça marchera. C'est un sujet qui est extrêmement complexe. Ceux qui, parmi vous, ont ouvert un jour le texte de l'ACTA en ont une idée un petit peu plus précise que les autres. On pourrait dire poliment que c'est un gros merdier. Et c'est surtout un sujet qui est à cheval entre le droit, l'économie, la technologie, la géopolitique et la gouvernance, le processus démocratique dans son ensemble. Donc c'est dur d'en faire le tour et de faire le tour de tous ces sujets à la fois. Et pour vous raconter un petit peu la genèse de l'ACTA, on a été alerté de quelques communiqués de presse courants 2008, des communiqués de presse entre le gouvernement américain et la Commission européenne qui annonçaient fièrement que les négociations commençaient et qui disaient, voilà, un accord international. Dans ce communiqué de presse, on a repéré quelques éléments de langage dont on n'était que trop familier à force de côtoyer ces industries du divertissement qui ne cessent de pousser un empilement de législation répressive au sujet d'Internet. On a vu ce vocable de lutter contre la contrefaçon et le piratage. Parce que la contrefaçon et le piratage, ça tue des petits-enfants, des bébés phoques, etc., etc. Donc dès le début, on a compris que l'idée était de mettre dans le même sac et d'imposer des mesures répressives qui mettraient dans le même sac les Chinois contrefacteurs de faux médicaments, les usines de fausses pièces auto, les faux DVD, et les échanges entre individus, le partage entre individus de fichiers numérisés. Et ce communiqué de presse disait, l'accent sera mis en particulier sur l'environnement numérique. Alors, ça, on s'est dit, oulala, alerte rouge. C'est dans le courant de l'année 2008 qu'une version de travail de l'ACTA a fuité par l'intermédiaire de Wikileaks. Donc, dès ce moment-là, on a commencé à mettre le nez dedans. Et là encore, avec l'espèce de, j'aime pas le mot expertise, mais en tout cas notre expérience de ces textes législatifs et des horreurs que ces industries nous poussaient dans les parlements et ailleurs depuis si longtemps. Et là, bingo, tout ce que l'on voyait arriver au niveau européen, notamment dans le paquet télécom et dans les divers textes législatifs et non législatifs qui étaient en train d'apparaître, était noir sur blanc, dans une forme encore imparfaite, encore, c'est évidemment un document de travail, dans ce brouillon de l'ACTA. Donc on a commencé à alerter les eurodéputés. Et petit à petit, on leur a fait poser des questions à la Commission européenne en disant, voilà, on voit qu'on va prendre des mesures pour faire cesser les infractions. Qu'est-ce que ça va être que ces mesures? On voit que le texte est négocié en secret. On aimerait que vous nous disiez ce qu'il y a dedans, etc. Et donc, on a commencé on était peut-être déjà en 2009. Fin 2008, début 2009, a commencé à alerter les eurodéputés, ceux qui étaient déjà sensibilisés à nos sujets, leur dit, regardez, ils continuent maintenant en contournant le processus démocratique. Donc, allez-y, allez demander ce qui s'y passe. Et donc, petit à petit, on a fait monter la sauce. Et jusqu'aux événements récents où on a enfin réussi à faire apparaître ACTA dans le grand public, dans le mainstream, en faire un sujet d'actualité. Il s'est passé comme ça 2 ans et demi où on a un petit peu prêché dans le désert, où on a un par un parlé avec les eurodéputés pour attirer leur attention, pour leur faire prendre des positions politiques, etc. Donc je vais pas vous faire toute la genèse et les 3 tomes de l'ACTA. En chemin, ce qu'il y a pu y avoir de notable, ben, par exemple, nous on a fuité 2 versions de travail de l'ACTA. Pour la petite histoire, je me promenais une fois dans le Parlement européen et je croise un eurodéputé avec qui on avait déjà un petit peu bossé, que je connaissais, qui regarde à gauche, qui regarde à droite, qui ouvre son porte-document, qui me file 50 pages et qui dit « Vous avez trouvé ça sur le photocopieur ?» et qui disparaît dans une espèce de nuage de fumée. Et c'est, voilà, c'est comme ça qu'on se retrouve à faire fuiter un document. Et donc, de proche en proche, à chaque étape, on a analysé ces documents, on a rapproché le contenu de ce que l'on connaissait, on en donnait notre interprétation. Et pour résumer, ça c'était pour le contexte, pour résumer en quelques mots ce qui nous pose vraiment problème avec l'ACTA aujourd'hui, pour que vous compreniez à quel point, si vous n'en étiez pas déjà convaincu, à quel point ce sujet est important et déterminant pour le futur de nos sociétés en ligne et surtout pour la vision que l'on va avoir d'Internet, des technologies numériques et du droit d'auteur dans l'avenir. Faut vous décrire ça en quelques mots. ACTA, c'est d'abord un problème démocratique majeur. Dès le départ, et là, c'est des câbles diplomatiques qui ont été diffusés par Wikileaks, auxquels on avait eu un accès exclusif et que l'on a pu analyser, on voit les négociations qui étaient encore en amont de ce communiqué de presse dont je vous parlais tout à l'heure, où un ambassadeur japonais et un ambassadeur américain discutent ensemble de comment ils vont faire pour contourner l'Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle, l'OMPI. L'OMPI, c'est un machin, une organisation internationale, il y a 130 et quelques pays membres. Ça a été fondé par l'OMC, et c'est à l'OMPI que les précédents traités de ce type étaient négociés. Le traité super répressif de 96, qui a donné la directive UCD de 2001, qui ensuite a donné en France la DATSI, l'ancêtre de la DOPI, c'était l'OMPI. Et il se trouve que depuis ce traité de 96, l'OMPI était prise d'une espèce de, je vais pas dire de vent de révolte, hein, parce que ça reste une institution très 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 plan-plan, mais un certain mouvement en provenance des pays du Sud, des pays pauvres, emmené par le Brésil, par l'Inde, par une coalition de pays africains, qui disait à l'OMPI « Arrêtez un petit peu les Occidentaux avec votre espèce de manie de toujours plus de protection de la propriété intellectuelle. Arrêtez avec vos mesures répressives. Nous, là, dans le Sud, on a des économies qui sont basées sur le partage. On fait des médicaments génériques pour sauver des vies. On a des scènes musicales basées sur le spectacle vivant où si les gens enregistrent et font tourner les cassettes et les CD, eh ben, ça fait de la promo. » On a des économies de la débrouille où on partage la façon de fabriquer des machins sans brevet, etc. Donc arrêtez de nous embêter avec ça et réfléchissons à autre chose. Et donc, en pratique, toutes les négociations à l'OMPI étaient depuis une dizaine d'années bloquées parce qu'il y a ce choc des titans entre d'un côté les pays superpuissants occidentaux et de l'autre le reste du monde. Et du coup, les ambassadeurs se sont dit, bah tiens, on n'a qu'à contourner ça. On n'a qu'à contourner l'OMPI et créer autre chose. On va réunir nos potes, on va se mettre autour d'une table. Et l'expression du représentant au commerce américain, donc en charge des négociations, était, on va se réunir between like-minded countries, entre pays qui pensent pareil. Et ça, on le voit très bien dans les câbles diplomatiques de Wikileaks. Donc ça, c'est le premier élément, et sans doute le plus important, dans l'ACTA, c'est que l'ACTA tout entier, le processus de l'ACTA, a été créé pour contourner l'organisation internationale existante où normalement ces choses doivent être débattues, donc pour contourner également les parlements et les opinions publiques. Et donc c'est un machin sorti de nulle part pour que des pays qui sont d'accord puissent sortir un ensemble de règles et, une fois qu'ils sont d'accord entre eux, pouvoir les imposer aux autres pays par le biais des accords bilatéraux. Donc quand les États-Unis font, je ne sais pas, un accord avec le Ghana ou la Côte d'Ivoire en disant, voilà, on continue d'acheter du cacao, mais vous nous achetez des F-16. Ah, et puis au passage, vous allez signer ces 50 pages de trucs et en faire la loi chez vous. C'est comme ça que l'on impose des dispositions législatives au travers des accords bilatéraux. Donc c'était le plan initial de l'ACTA, de contourner les institutions existantes pour imposer un arsenal répressif qui viserait indistinctement la contrefaçon de biens matériels, qui est, c'est évident, un problème réel, les fausses pièces d'automobile, les faux médicaments, les machins comme ça, et les échanges interpersonnels, le partage de fichiers sans but commercial entre les individus. Donc vraiment un problème de gouvernance et un problème démocratique. Et aujourd'hui, on viendra dans une seconde partie, celle qui devrait vous endormir, sur la procédure et l'état de l'ACTA au Parlement européen. Aujourd'hui, il n'y a même plus besoin de parler du contenu de l'ACTA, tant ses aspects démocratiques sont des problèmes politiques et qu'il est désormais entre les mains du Parlement européen de les traiter et de nous protéger, nous, citoyens européens. Donc ça, c'était le premier point. ACTA, c'est avant tout un problème démocratique majeur. Ensuite, puisqu'il s'agit puisqu'on a un petit peu de temps devant nous, parler un petit peu du détail du texte. Et donc c'est là où ça commence à devenir barbant, mais pas encore tout à fait endormissant, j'espère. La partie endormissante, ce sera vraiment la partie européenne. L'ACTA, au sujet d'Internet, alors il y a plein de points qui posent problème dans l'ACTA. Il y a, à l'article 9, sur la partie sanctions civiles, une façon de calculer le préjudice devant les tribunaux, qui est exactement ce que demandent les industries du divertissement et les industries pharmaceutiques, où ça dit maintenant les juges, quand ils vont devoir calculer un préjudice, devront prendre en compte la version des industries du copyright, avec notamment le prix de vente, les ventes perdues et des choses comme ça. Ça fait 15 ans qu'on nous bassine à nous dire que oh là là, tous ces affreux pirates qui piratent des fichiers sur Internet, ils tuent l'industrie du disque, du cinéma, etc. On voit que les revenus opérationnels nets de l'industrie du disque est plutôt en augmentation, comme la gestion collective, comme la redevance copie privée, comme les entrées en salle de cinéma, comme les dépenses culturelles des Français. Mais c'est pas grave, la culture est en train d'être tuée depuis 15 ans. Et donc ils ont un mal fou à prouver ce préjudice autrement que par des grandes phrases et des grands poncifs et en sortant un vieil artiste à demi-mort du bocal de Formol pour dire « j'ai ma sortie d'album, je vais mourir voilà. ». Et donc là maintenant on simplifie ça une bonne fois pour toutes en disant « quand Monsieur Universal arrive devant le tribunal et dit « regardez, ce gamin a téléchargé 10 000 films, un film à la FNAC ça vaut 17 euros, donc 17 fois 10 000 égale 170 000, il nous doit 170 000. Pouf, voilà. Donc ça, c'est en soi un problème, mais on n'est là que sur la partie des sanctions civiles de l'ACTA. J'allais dire que c'est un problème mineur par rapport au reste. Moi, ce qui m'embête le plus, excusez-moi, et qui est un problème, là aussi, un problème démocratique et même un problème de souveraineté politique, vous allez le voir, c'est que l'ACTA, dans son article 23, celui sur lequel je vous interrogeais tout à l'heure, j'avais une mauvaise note, son article 23, c'est des sanctions pénales. Et donc, on vous dit, non, mais ACTA, non, vous inquiétez pas, c'est normal que les négociations soient secrètes et tout. On fait toujours une négociation d'un accord commercial, en secret, accord commercial. Ouvre le truc, article 23, sanctions pénales. Dans un accord commercial, d'habitude, il y a des sanctions pénales ? Non. Les sanctions pénales, c'est les plus hautes sanctions qu'il peut y avoir dans l'ordre judiciaire. C'est donc des peines de prison. Et l'ACTA va jusqu'à définir ce que les pays signataires vont devoir mettre en œuvre comme nouvelle peine de prison. Et là, il y a un bug. Et il y a un bug qui complexifie énormément la procédure telle qu'elle va se dérouler au Parlement européen et la responsabilité des diverses institutions européennes. Parce qu'il y a des sanctions pénales, et les sanctions pénales, normalement, c'est les États membres, c'est les pays européens qui décident eux-mêmes, tout seuls, de ce que sont leurs sanctions pénales, et pas l'Europe. Il a dû y avoir à la table de négociation, en plus de la Commission européenne, de l'exécutif européen, il a dû y avoir la présidence du Conseil de l'Union européenne. Là, ça commence à vous endormir. Le Conseil de l'Union européenne, c'est les États membres, et donc la présidence représente les États membres, c'est donc des représentants de nos gouvernements qui sont allés à côté de la Commission européenne, et eux étaient les seuls habilités à négocier ces sanctions pénales, en toute opacité, en disant « oui, on est d'accord, on va se rajouter des sanctions pénales ». Et ensuite, les parlements nationaux auront qu'à suivre, parce qu'on aura déjà pris la décision. Donc là, c'est un exemple de ce problème démocratique majeur que j'évoquais tout à l'heure. Et il suffit de dire ça sans entrer dans le détail des sanctions pénales pour faire lever le sourcil de n'importe quel juriste, de n'importe quel législateur, de n'importe qui attaché à des valeurs républicaines. Et après, il ne faut pas revenir sur le traité de Maastricht et des choses comme ça. Mais ça ressemble à un bug dans le fonctionnement des institutions européennes. Et donc, ces sanctions pénales, qu'est-ce qu'elles disent ? À l'article 23.1 et à l'article 23.4, elles disent « Les signataires s'assurent de mettre en œuvre des sanctions pénales pour les infractions commises à une échelle commerciale ». Et alors là, j'invite les plus férus de droit parmi vous, s'il y en a, et je pense que c'est une perversion, à rechercher et à documenter cette notion d'échelle commerciale. On parle de droit pénal, donc de peine de prison. Normalement, dans le droit pénal, il y a un élément indispensable qui est celui de l'intentionnalité. Si on n'arrive pas à prouver que vous vouliez commettre un délit ou un crime, on ne peut pas reconnaître que vous êtes coupable. Et là, ce truc de l'échelle commerciale, c'est quelque chose qui ne veut rien dire, qui est vaguement utilisé dans les accords du TRIPS de 92, je crois, mais où il y a marqué « intentionnel et à une échelle commerciale ». Là, cette notion d'échelle commerciale seule vise à se débarrasser de l'élément d'intentionnalité. On ne regarde plus les actions des individus les uns à côté des autres, on regarde une échelle, quelque chose de global. Et donc, nous, quand on lit ça, notre interprétation de cette notion d'échelle commerciale, c'est que c'est un sac dans lequel on peut absolument tout mettre. Imaginez, 1 million de personnes échangent un fichier chacun. C'est une échelle commerciale. Un site comme The Pirate Bay, qui va permettre à des dizaines de millions de personnes par jour d'accéder à des micro-réseaux dédiés de partage de fichiers, des millions de personnes... Pensez bien, une échelle commerciale. Vous ouvrez un blog, paf, il est lu par 1 million de personnes du jour au lendemain. Et vous avez des bandeaux de pub dessus. C'est une échelle commerciale, là encore. Donc, tout ce qui potentiellement devient gros sur Internet, toute pratique qui se répand et devient importante sur Internet, peut potentiellement tomber sous le coup de cette notion d'échelle commerciale. Ça, c'est extrêmement dangereux. Et quand on regarde plus loin à l'article 23.4, l'ACTA dit, et les signataires, évidemment, mettront en œuvre ces sanctions pénales pour la complicité de ces infractions à une échelle commerciale. En anglais, ça se dit « aiding and abetting », qu'on pourrait traduire par « aider et faciliter ». De façon assez étrange, le mot « aiding and abetting » était apparu dans la directive IPRED 2 à l'époque, et une traduction de l'Union européenne, une traduction officielle, avait dit « aider et inciter ». Vous imaginez la notion que ça donne d'une complicité. « Aider et inciter ces infractions commises à une échelle commerciale » devient lui aussi passible de sanctions pénales. Hey, toi là-bas, tu as fait un lien vers The Pirate Bay sur ton site web. Bah, tu as incité à des contrefaçons à une échelle commerciale. Hey, toi là-bas, opérateur Internet. Attends, ils sont où, les tétas neutrales? Et vous là? Et vous là-bas? Vous avez permis à vos abonnés d'accéder à The Pirate Bay ou d'utiliser BitTorrent? Ah si, si, vous êtes complice. Vous êtes complice d'une infraction à échelle commerciale. Sanction pénale, allez-vous? Il est où le tribunal le plus proche, là? On va vous... Donc, n'importe quelle pratique qui devient répandue sur Internet peut être visée par cette notion. Et de la même façon, par le biais de cet article 23.4 et cette notion de aiding and abetting, de complicité, n'importe quel intermédiaire de ces pratiques peut également être visé. Donc vous voyez que le périmètre des actions visées multiplié par le périmètre des acteurs qui peuvent être visés font de cet article 23 une véritable arme atomique contre absolument n'importe qui sur Internet qui concourrait de, que ce soit des nouvelles pratiques culturelles ou quoi que ce soit qui fasse qui ait déplaisir à l'industrie du divertissement. Et donc ça, c'est un vecteur d'insécurité juridique majeur. Si vous êtes fournisseur d'accès ou fournisseur de services, une plateforme de vidéo type Dailymotion ou Dailymachin, que vous soyez un moteur de recherche type Six ou Bing ou Yahoo, que vous soyez n'importe qui opérant un petit bout d'Internet quelque part, vous pouvez un jour avoir un avocat de Vivendi Universal qui vous appelle en disant hey, « Eh, les cocos, là, vous êtes en train d'aider, vous êtes en train de vous rendre complice d'une infraction à une échelle commerciale. » Et donc, c'est l'arme atomique que l'on va pointer sur la tempe d'absolument n'importe qui. Et là, vous vous dites, ouais, mais bon, de toute façon, c'est soumis à interprétation, et puis ça va peut-être pas être utilisé comme ça tout le temps, et puis le jour où ça arrive devant un tribunal, le juge, il va peut-être pas, etc. Et bien ça, en soi, c'est un danger. Si le texte est si vague que nous pouvons, et quand je dis nous, c'est pas seulement nous, la Quadrature du Net, notre analyse est partagée par Reporters sans frontières, 13 des lauréats du prix Sakharov qui est remis par le Parlement européen pour la liberté de penser, Article 19, qui est une belle et grosse organisation de défense des libertés fondamentales, etc. etc. Donc si un ensemble de gens peut avoir une interprétation qui dit « Oh là là, mais c'est une arme atomique pour assommer une mouche », et que d'autres peuvent éventuellement l'interpréter différemment, et que cette partie, en particulier les sanctions pénales, doit être interprétée par chacun des signataires pour le mettre dans son droit national, et ensuite par les juges qui vont l'utiliser, le caractère flou de cette notion est en soi quelque chose de dangereux. Et vous vous dites, bon, juste taper comme ça sur les gens qui permettent d'aider à... Nanana, est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que c'est si important que ça? Et quelles seront les conséquences, au bout du compte? En réalité, pour comprendre les conséquences de ça, il faut voir cette partie de l'ACTA comme étant seulement la moitié du dispositif. L'autre moitié du dispositif, c'est à l'article 27, là encore, désolé pour les détails assommants, c'est à l'article 27.1 et 27.3, où vous avez cette notion, et quand vous le lisez, même un juriste, en le lisant, ne va pas trouver ça dangereux. Et si vous n'êtes pas tapé, encore une fois, ces industries depuis des années et savoir pertinemment ce qu'ils demandent à chaque fois qu'ils répondent à une consultation de l'Union européenne, à chaque fois qu'ils parlent dans une conférence, à chaque fois qu'ils parlent en privé, quand vous arrivez à faire fuiter des documents, etc., vous pouvez tout à fait le lire et trouver ça complètement normal. Mais ça dit, les signataires vont inciter à la coopération entre les fournisseurs d'accès et les fournisseurs de services Internet et les industries du divertissement. Bon, coopération, en soi, c'est pas grave. C'est pas méchant, la coopération, ça n'a jamais tué personne de coopérer. Bon, article 27.3. Et l'article 27.1, lui, dit il faut quand même... On va se débrouiller pour prendre des mesures pour faire cesser, des mesures pour rapidement faire cesser les infractions futures. Et donc, vous voyez se dessiner quelque chose où on va braquer l'arme atomique des sanctions pénales. Allô, monsieur Tétat Neutral? Ouais. Monsieur Tétat Neutral, tu es en train de faciliter l'accès à BitTorrent pour tes utilisateurs. Alors, je te propose un truc. C'est soit je t'amène devant le tribunal de grande instance de Toulouse, je te tue. Soit t'es gentil, tu vas coopérer. Et t'es gentil, tu vas coopérer, tu vas prendre des mesures, et tu vas prendre des mesures pour faire cesser les infractions futures. Alors faire cesser les infractions futures, ça n'est pas Minority Report où Tom Cruise intervient pour faire cesser les crimes avant qu'ils se commettent. Ça n'est pas non plus la police de la pensée dans George Orwell 1984. En termes techniques, quand on dit sur Internet des mesures pour faire cesser les infractions futures, il y a peut-être des techniciens dans la salle, je sais qu'il y en a au moins quelques-uns, posez-vous la question, qu'est-ce que ça peut être d'autre que des mesures de filtrage, de blocage d'accès au contenu ou d'effacement automatique des contenus. Tic-tac, tic-tac, vous avez 30 secondes. Non, enfin vous avez plus que ça, on peut en discuter encore après. Des mesures pour faire cesser les infractions futures, ça n'est que du filtrage, du blocage, de l'effacement automatisé. Dans les trois cas, des procédés qui reviennent ni plus ni moins à censurer les contenus. Les mêmes dispositifs qui sont utilisés dans les régimes autoritaires à des fins politiques. Et on nous dit, afin de faciliter la lutte contre la contrefaçon, les petits artistes qui meurent, tout ça, on va demander à des entreprises privées de mettre en œuvre des mesures de censure sans passer par l'autorité judiciaire. Il y a un truc, moi, que j'ai lu dans une, je sais plus comment ça s'appelait, charte des droits de l'homme, machin, la charte européenne, comme ça, droits de l'homme aussi, une liberté fondamentale qui s'appelle le droit à un procès équitable. Quand on va vous accuser de quelque chose, quand vous allez risquer des sanctions, vous avez le droit à une audience contradictoire. C'est-à-dire, il y a Vivendi Universal qui va dire « Ouais, mais lui, c'est un pirate. » Et vous allez pouvoir dire « Bah non, moi j'utilise mon exception au droit d'auteur pour la parodie. » J'ai le droit. Deux, la preuve est à la charge de l'accusation. C'est Vivendi Universal qui doit dire « Ah ah, regardez, monsieur le juge, j'ai dans cette enveloppe une clé USB qui prouve que l'accusé est un pirate. » Bref, c'est à eux de faire ce travail-là. Trois, lorsqu'une décision est rendue, vous avez toujours moyen de faire appel. Et si l'appel ne marche pas, pour des raisons de procédure, vous pouvez aller en cassation. Et si vous estimez que la décision devant la Cour de cassation vous a lésé, vous pouvez éventuellement aller devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc vous avez moyen, c'est comme ça qu'on lutte contre les erreurs judiciaires, et moyen de faire appel de toute décision, et c'est le droit à un procès équitable. Et là on dit, des entreprises, bon, Tétat neutral c'est pas pareil, mais des Orange, des Free, des Google, des Facebook et des machins comme ça, vont prendre des sanctions. Donc quand on parle de filtrage, de blocage d'accès au contenu, d'effacement automatique des contenus, il est manifeste que ça a un impact sur la liberté d'expression. Je n'ai pas besoin de vous expliquer à l'envers comment Internet est aujourd'hui indispensable pour la liberté d'expression et la participation démocratique. Et donc on dit des entreprises privées vont devoir prendre des mesures qui auront un impact sur notre liberté d'expression en contournant le droit à un procès équitable et sans passer par l'autorité judiciaire. Ah ouais, elle a bon dos, la coopération. Voilà. Et bien ça, c'est la tendance actuelle. C'est ce que demandent ardemment les industries du film et du disque depuis maintenant 5 ans. C'est ce que l'on voit écrit dans le point 26 des conclusions du EG8 que Nicolas Sarkozy avait organisé avec les entreprises de l'Internet. C'est ce que l'on voit dans des recommandations de l'OCDE, où là, c'est directement les industries hollywoodiennes qui, au travers des représentants de la Maison-Blanche et du State Department, ont de façon indéboulonnable inscrit ces principes. Et je me suis retrouvé face à eux à essayer de les faire bouger là-dessus. Je sais de quoi je vous parle. C'est ce que l'on lit dans le plan d'action de Michel Barnier, le commissaire européen pour la France au marché intérieur, lorsqu'il évoque son plan pour le futur du copyright. C'est ce que l'on lit dans toutes les réponses de Warner, de Universal, de la MPA, de l'IFPI, du SNEP en France, de la SACEM, de blablabla, de tous ces faunés, de tous ces lobbyistes des industries du cinéma et du disque. Ils disent « Ah ben nous, pour lutter contre le piratage qui tue, ben on a besoin de la coopération et on a besoin de mesures pour faire cesser les infractions. En gros, on a besoin que les acteurs de l'Internet fassent la police sur le réseau, parce que nous, on n'y arrive pas. Et quand on va voir le juge, ben ça marche pas. Et puis quand on corrompt un petit pays et qu'on lui fait créer un machin administratif, genre Adopi qui va envoyer des mails, ben ça passe pas non plus dans l'opinion publique. Alors comme ça passe pas, on va, encore une fois, contourner la démocratie. Et là, on va faire ça directement par voie privée, par les contrats. Et comme on n'y arrive pas en demandant poliment, enfin avec Google ça marche un peu, mais comme on n'y arrive pas avec tout le monde en demandant poliment, eh ben on va se créer une super arme atomique, c'est les sanctions pénales de l'ACTA, comme ça on va pouvoir y faire pression. Alors voilà, j'ai déjà parlé beaucoup plus longtemps que ce que j'avais l'intention de dire, et vous comprenez à quel point c'est complexe et à quel point c'est difficile de raconter tout ça sans entrer dans les détails. Parce que pour peu que vous rédigiez un petit bout de machin ou en un paragraphe, vous allez dire « ACTA va forcer la censure d'Internet ». On va dire « Mais pas du tout, voyons, vous voyez le mal partout, ACTA ça ne force rien du tout ». Non. ACTA va donner des outils pour mettre la pression pour installer de façon volontaire et par voie contractuelle des outils qui sont ceux de la censure. Ah oui, ben oui. Ben, le problème est globalement le même, hein, je vous l'accorde. Mais il faut vraiment être prudent et vigilant sur le sens des mots. Donc ça, c'est l'effet de l'ACTA, et là il y a un certain nombre d'analyses encore une fois qui nous rejoignent, et je vous invite à aller sur... pas moyen de l'écrire au tableau, non, c'est pas une bonne idée. L'adresse qui est laquadrature.net/ACTA, c'est notre web dossier sur lequel on concentre toutes les ressources que l'on estime utiles et toutes les analyses qu'on a pu pondre au fil du temps. Si un jour vous faites un flyer, n'hésitez pas à mettre l'adresse dessus, ou une affiche, enfin je sais pas. Vous allez voir ici des liens vers tout un tas d'analyses qui confirment ce que l'on vous dit ici. L'objectif est de transformer les acteurs de l'Internet en une police privée et en une justice privée du copyright. Et ça, c'est quelque chose d'intolérable. Et quand on va toucher à nos libertés fondamentales sur Internet ou ailleurs, ben je suis désolé, on fait ça en étant des élus dans un Parlement de façon démocratique, avec un droit d'amendement au grand jour, et pas négocier dans des salles closes, comme ça, pendant plusieurs années de suite, avec des négociateurs dont on n'a même pas les noms. Donc, ça c'est pour... Enfin, si on a quelques noms d'ailleurs. Tiens, un nom comme ça parmi d'autres, Kira Alvarez. Kira Alvarez, c'était la chef de la délégation américaine. Et Kira Alvarez, avant d'être chef de la délégation américaine, elle était vice-présidente de Time Warner, en charge de la Global Policy, donc du lobbying à l'échelle globale. Avant ça, elle bossait dans l'administration Bush, et avant ça, elle était dans, comment s'appelle, le plus gros labo pharmaceutique américain, en charge, là aussi, du lobbying global. Chats ne font pas des chiens. J'ai aussi des noms pour la France. Hein. Patrice Guyot et Jean-Philippe Muller, tous les deux au Trésor, à Bercy, qui étaient en charge du dossier, voilà, deux petits ronds de cuir, tout banal, et qui ont décidé pour la France, dans ces réunions pour la présidence du Conseil, où il n'y a pas de notes écrites de qui était, ce qui s'est dit, où il n'y a aucune trace de rien du tout, qui ont participé à décider ces fameuses sanctions pénales, et qui ne seront jamais inquiétés. De toute façon, ils ne sont pas élus, donc ils ne risquent pas de ne pas être élus ou quoi. Voilà. Voilà ce que c'est que l'ACTA. Et donc là, je vous entends demander, mais c'en est où l'ACTA ? Ah, merci. Donc ça, voilà, c'était pour vous brosser le tableau. Évidemment, dans l'échange que j'espère ouvrir le plus rapidement possible, on va avoir l'occasion, si vous le souhaitez, de rentrer les détails ou même d'élargir le spectre, d'élargir le débat. Excusez-moi. Ce qui est indispensable de comprendre, c'est que nous, les citoyens, avons eu et avons aujourd'hui une influence sur l'ACTA. Mais alors, dans les grandes largeurs. Déjà, entre toutes ces versions de travail, celles fuitées par Wikileaks et celles que nous avons fuitées nous-mêmes, à force de taper dessus sur les mesures les plus agressives, les plus inacceptables, les négociateurs eux-mêmes ont essayé de les camoufler en les réécrivant, en les transformant en une espèce de machin de gloubi-boulga qui est divisé entre deux parties du texte alors qu'avant il était dans une seule pour essayer de nous enfumer. Ça n'a pas marché. Mais certains ont commenté que la version finale de l'ACTA est du coup beaucoup moins dangereuse qu'étaient les versions intermédiaires. Voilà. Donc déjà on peut se féliciter de ça. Mais surtout, vous l'avez entendu, dans une... concordance d'événements absolument cosmiques, à savoir entre la levée de bouclier qu'il y a eu aux États-Unis contre les projets de loi SOPA et PIPA, dont vous avez entendu parler, qui était en quelque sorte la version américaine transposant l'ACTA, la transposition américaine de l'ACTA, et qui a fait l'objet d'une levée de boucliers dans lesquelles Wikipédia tout entier est passé en blackout, affichant des pages noires. Google lui-même a mis un petit bandeau noir, quand même pas interrompu ses opérations, faut pas pousser. Et des sites comme Tumblr ou Reddit ont aussi passé leur page d'accueil en noir en mettant un message. Plutôt qu'utiliser notre site, vous préféreriez peut-être cliquer ici pour appeler vos élus. D'ailleurs, les gars de CT chez Tumblr nous ont dit qu'ils s'étaient inspirés de ce qu'on faisait, nous, avec la quadrature du net en Europe pour monter ce truc à gros coups de dollars qui était autrement plus impressionnant, mais qui a entre autres concouru à faire que 13 millions de coups de fil sont arrivés sur le Congrès américain. Donc cette même semaine, et où Barack Obama a pris un peu de panique, voyant arriver les élections, dit « Ouais, non, en fait, il faut trouver un équilibre entre un Internet libre et le copyright, et là, on n'y est peut-être pas tout à fait. » Cette même semaine où les industries hollywoodiennes ont dit « Ouh là là, bah, si c'est comme ça, Obama, il n'aura plus un centime pour sa campagne de 2012. » Cette même semaine où, deux jours après ça, le FBI débarque dans X pays du monde et va débrancher le 13e plus gros site de l'Internet, Mega Upload, au lieu de juste arrêter ses auteurs, saisir leur compte en banque et les mettre face à leurs responsabilités. Quelques jours après ça, l'exécutif européen, dans toute son arrogance, va tranquillou aller signer l'ACTA. On s'en fout, on n'est pas élu. Vas-y, on est la commission, mais les gouvernements, qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire ? Ah ouais. Alors que le monde entier est en train de regarder la grosse machine du copyright hollywoodien en train de devenir complètement folle, menacer de nous casser l'Internet en petits morceaux, aller nous débrancher un bout de l'Internet et repartir avec sous le bras. Et avec au passage les données personnelles de 19 millions d'utilisateurs, des numéros de compte en banque et des machins comme ça, tout va très bien. Au même moment où il se passe ça, bah, l'exécutif européen se dit « Tiens, c'est peut-être le bon moment pour aller signer l'ACTA ». Deux jours après, il y avait 50 000 personnes dans les rues de Cracovie. Voilà. Et vous savez ce qui s'est passé depuis. Vous avez vu des gens dans les rues de 300 villes d'Europe le même jour. Des centaines de milliers de gens dans une grosse manifestation distribuée au travers de toute l'Union européenne. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire de l'Union européenne. C'est les gens sur les moindres bouts de forums et trucs, machin. Ouais, ACTA ! Et les levées de boucliers et les coups de fil qui tombent sur le Parlement et des actions plus ou moins bienvenues de citoyens plus ou moins jeunes, pas forcément, qui n'avaient pas forcément lu tout l'ACTA et toute la quadrature du net, mais on ne peut pas vraiment leur reprocher, et qui se sont dit « Ouais, vas-y, on va taper dessus, on va machin, on va cliquer Loïc et puis on va tout niquer. » J'en vois deux, trois qui rigolent. Et donc un ensemble d'actions qui a véritablement, là aussi, commencé à avoir un impact très impressionnant sur les institutions européennes. Et le commissaire européen en charge du commerce extérieur, Karel de Gucht, le Belge, qui est en charge de l'ACTA, publiquement, deux jours après ça, fait « Ouais, mais de toute façon, ces manifestations ne m'impressionnent pas !» Et qui, le lendemain, à la réunion de la Commission européenne, donc avec Barroso et tous les autres, fait « Donc, ces manifestations, qu'est-ce qu'elles m'impressionnent ?» On ne s'attendait pas à ça, non ? Là, vraiment, attendez, on va essayer de trouver quelque chose. Et c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Donc la procédure européenne, c'est la Commission va pour signer, les gouvernements vont pour signer parce qu'il y a les machins sanctions pénales et que là, c'est une espèce de... Hein, et depuis le traité de Lisbonne, entré en vigueur le décembre 2009, oui, pas mal. Depuis le traité de Lisbonne, lorsqu'un accord commercial, ou à plus forte raison, un accord dit mixte quand il est commercial et avec des sanctions pénales, lorsque la Commission le négocie, elle doit maintenant chercher le consentement, consent en anglais, du Parlement européen. Et donc la Commission signe et puis dit « Tiens, maintenant Parlement, tu vas me dire si tu es d'accord ou pas. » Et donc c'est là qu'on en est. C'est que le Parlement doit dire s'il est d'accord ou pas. Et alors, c'est pas aussi simple qu'il y paraît, parce que ce « est-on d'accord ou pas ?», c'est donc le vote sur le « consent » décrit dans l'article 218 du TFUE. C'est un vote, mais pas seulement un vote sur l'ACTA, oui, non. C'est un vote sur un rapport qui doit être élaboré par le Parlement européen tout entier, et qui donnera une recommandation de vote au Parlement, qui, au nom du Parlement, dira « ACTA, c'est bon, mangez-en », ou « ACTA, faut pas ». Et donc, c'est ce qui est en train de se jouer aujourd'hui au Parlement européen. Alors là, c'est là les détails qui vous endorment. Vous pouvez ronfler, vous inquiétez pas, c'est normal. C'est le Parlement européen, ça passionne les foules. Il y a donc une commission parlementaire qui est dite saisie au fond et qui, elle, a le stylo sur la rédaction du rapport. C'est la commission commerce international qui s'appelle INTA. Vous avez entendu parler d'un rapporteur qui s'appelait Kader Arif et qui est parti en cours. On en parlera peut-être dans les questions-réponses. Je ne sais pas, peut-être. Donc, cette commission saisie au fond va rédiger le rapport, mais avant de boucler son rapport, elle doit demander l'opinion de 4 autres commissions. Alors, petit exemple de ce qu'on a réussi à faire jusqu'à présent, avant même que la levée de bouclier citoyenne fasse flipper comme ça le commissaire de Gucht, c'est qu'on a, nous, envoyé, on a bombardé de courriers les gens des commissions industrie et liberté fondamentale en leur disant, regardez, là, il y a des problèmes qui vous concernent du point de vue de l'industrie et qui vous concernent du point de vue des libertés fondamentales. S'il vous plaît, saisissez-vous d'une opinion. Et on a été entendu. Parce qu'initialement, il devait y avoir INTA, commerce international, et jury, commission des affaires juridiques, qui est le nid des talibans du copyright au Parlement européen, et DV comme développement. Oui, alors il y a des histoires de développement, notamment les questions de l'accès aux médicaments qui sont contenues dans l'ACTA. Alors voilà, je n'ai pas évoqué les parties relatives à l'accès aux médicaments et la distribution des semences, mais qui sont aussi contenues dans l'ACTA, parce que c'est un petit peu moins mes sujets. Et si ça vient dans les questions-réponses, je saurais vous donner les pointeurs où regarder pour ça. Mais donc DV s'intéresse aussi à des bouts d'ACTA, mais pas que. Et donc en plus de ça, comme je vous l'ai dit, Industrie, donc la commission ITRE, et Libé, la commission Liberté fondamentale, vont elles aussi devoir travailler une opinion. Donc ces commissions parlementaires, c'est de 40 à 60 eurodéputés qui se réunissent en général une fois par mois, qui vont échanger leurs vues, comme on dit, donc débattre, ensuite présenter des documents de travail, ensuite présenter des brouillons d'opinion, ensuite déposer des amendements sur ces brouillons d'opinion, ensuite voter sur ces amendements pour ensuite finaliser leur opinion qui sera transmise au comité saisi au fond, qui lui-même va voter sur des amendements à son rapport en vue de finaliser le rapport pour que le rapport soit soumis au vote. Et le vote de ce rapport conditionnera le vote sur oui ou merde à l'ACTA. Je ne vous dis pas évidemment lequel des deux on souhaite obtenir. Et donc, nous vivons une époque formidable. Parce que en commission industrie, c'est mon amie, la jeune pirate Amélie Andersdotter, qui est en charge de l'opinion, qui est déjà en train de consulter avec les divers acteurs de l'industrie de l'Internet, qui vont lui expliquer un peu ce qu'ils en pensent, eux, du risque de devenir une police privée du copyright. Parce qu'en Libé, là aussi, il y a des gens reconnus sur le sujet qui sont déjà en train d'abreuver les gens de la commission Libé d'information, et qu'on est en train d'assister à une espèce de damage control, de tentative de limiter les dégâts par le nouveau rapporteur David Martin qui a pris la suite de Kader Arif, et on pourrait parler... je crois qu'il va falloir qu'on en parle. Bon, alors Kader Arif, pour des raisons qui lui sont propres, et qui sont globalement électorales, Kader Arif s'occupe d'une campagne présidentielle, donc il s'est senti obligé de quitter son poste de rapporteur de l'ACTA, alors qu'il aurait pu le faire des mois avant et dénoncer le scandale qu'était l'ACTA des mois avant. Il le fait une fois que l'ACTA a été signé, et pas avant, en disant « Oh oui, c'est scandaleux, d'ailleurs je m'en vais en courant, mais en criant au scandale, sachant pertinemment que sa fonction de rapporteur allait devoir échoir à quelqu'un d'autre derrière. Et comme il le lâche au moment où la pression est la plus forte et où l'ACTA est devenue une patate chaude, et la patate chaude rebondissant de main en main, personne au groupe socialiste ne veut s'en occuper, jusqu'à ce que ça tombe dans les mains d'un Britannique, sachant que les socialistes britanniques font pour nous partie des talibans du copyright, qui votent toujours comme les conservateurs sur les questions de copyright. Et donc, monsieur Arif a réussi à faire en sorte que l'ACTA, oh, ce scandale, soit désormais aux mains d'un, j'allais dire un conservateur, d'un socialiste britannique qui vote comme les conservateurs sur l'ACTA. Et ce qui devait arriver arriva. David Martin est déjà en train d'essayer de nous empapaouter et d'activer des artifices de procédure pour gagner du temps. Et donc, c'est ça qui est en train de se jouer aujourd'hui. Alors là, vous devez commencer à passer en phase de sommeil profond. C'est là que les rêves commencent, je crois. Enfin, je m'en voudrais de vous faire rêver du Parlement européen, parce que ça peut très vite virer au cauchemar. Mais pour vous faire quand même le point d'actualité sur ce qui est en train de se passer là, aujourd'hui, maintenant, au Parlement européen, Karl de Gucht, donc, qui n'était pas impressionné par les manifestations, mais en fait très très impressionné quand même, a trouvé comme solution pour ne pas se prendre une fessée déculottée dans les mois qui viennent, parce que l'ensemble de cette procédure au Parlement européen aurait pris quelque chose comme 5 à 8 mois. Et donc, pour ne pas se prendre une défaite en race campagne, il a dit, tiens, très bien, j'ai une idée, on va saisir la Cour de justice de l'Union européenne pour lui demander si l'ACTA, c'est compatible avec les traités et donc avec les libertés fondamentales. Ah ouais. Ah bah oui, non, parce que quand même, vous comprenez, c'est important, les libertés fondamentales. Oui, c'est très important, liberté. Puis les citoyens sont inquiets, tout ça, on va leur donner de quoi leur rassurer. Bah oui, oui, les libertés fondamentales, oui. Mais pourquoi vous avez posé la question à la Cour après avoir signé et pas avant? Ah, c'est la Kélos. C'est la Kélos. Et en l'occurrence, poser cette question à la Cour de justice de l'Union européenne, il y a une seule question qui peut être posée, et c'est déterminé dans les traités, c'est voilà, est-ce que c'est compatible avec les traités? Point d'interrogation. C'est la seule question qui peut être posée. Et je ne vais pas dire qu'on s'en fiche. La réponse à cette question est très importante. Mais comme je vous l'ai expliqué, ACTA, ça n'est pas que ça. ACTA, c'est un problème démocratique majeur. ACTA, c'est une tendance dans la répression du droit d'auteur qui est coulée dans le béton et qui est mise en œuvre et qui conditionnera tous les projets futurs en matière de copyright. ACTA, c'est ces fameuses polices privées du copyright, etc., etc. Et donc la CJUE, la Cour de justice de l'Union européenne, elle ne peut pas répondre sur ces points-là, elle ne peut pas répondre sur les points politiques. Et donc c'est un truc génial, vraiment, c'est très bien trouvé, du commissaire de Gucht, pour faire en sorte de repousser le débat. La CJUE donnera sa réponse dans 12 à 24 mois, et vous imaginez bien, bon, les Polonais, ils ne vont pas rester dans la rue, le point levé, pendant 24 mois... puis ça a encore passé par des hivers un peu rudes. Voilà. Donc c'est une façon de gagner du temps et aussi une façon de désamorcer le débat politique en remettant l'ACTA sur le terrain juridique. Non, non, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de question de gouvernance, de trucs, de machin, c'est juste une question juridique. Est-ce que c'est compatible avec les traités, oui ou non? Et il aurait pu s'en tirer comme ça, sauf que, et là, c'est vraiment le truc avec lequel on est en train de s'écharper aujourd'hui, en parlant avec les eurodéputés et les responsables des divers groupes politiques. Si la Commission pose la question, ça n'empêche pas au Parlement de continuer ses travaux, de voter, de mettre la fessée à ACTA et à De Gucht, et de dire, bon, bah, tiens, voilà, attends là toute seule ta réponse de la CJUE. Sauf que le rapporteur David Martin essaye de filer un coup de main à Karl De Gucht, on dira, ah ouais, ouais, non, c'est très, très important, la compatibilité avec les treaties et avec les libertés fondamentales. Alors, nous aussi, le Parlement, on va poser la question, différemment, mais la même question. C'est très, très important, parce que Karl de Gucht, il a raison, oui, oui, il a raison de poser la question. Hein. Donc, on va la poser aussi. Voilà. Ça, c'est un piège béant qu'on est en train de dénoncer. Chacun des groupes politiques va devoir se prononcer là-dessus. Est-ce que le Parlement européen tout entier va décider de poser exactement la même question, formulée un petit peu différemment, mais la même question que la Commission européenne, donnant ainsi toute légitimité à la manœuvre de Gucht? Et au passage, si c'est le Parlement qui pose la question, le Parlement s'empêche de prendre une décision sur l'ACTA avant que la réponse ait été donnée, dans 1 ou 2 ans. Allez, salut! On se revoit dans 1 ou 2, juste avant les élections. Oups. Ça pourrait être drôle. Mais à ce moment-là, dans 2 ans, on sera déjà passé à autre chose que l'ACTA. Et je vais y venir. Et donc là, aujourd'hui, notre travail de terrain, ça a été d'appeler un par un les eurodéputés, les coordinateurs, ceux qui sont en charge du dossier dans les différents groupes politiques, pour leur expliquer pourquoi, politiquement, ce serait inacceptable s'ils faisaient ça, pourquoi on les regarde, on les voit, et eux qui naviguent en ce moment en plein amateurisme, parce que c'est la première fois qu'une procédure comme ça arrive, et personne ne sait est-ce que le recours est suspensif, pas suspensif, machin. On leur envoie les références dans le traité de Lisbonne, dans les règles de procédure du Parlement européen, les trucs et les machins. On leur dit, là, Coco, si tu fais ça, on va te taper dessus. Et on a réussi à faire en sorte que déjà le groupe socialiste tout entier vote contre ce recours du Parlement, contre l'avis du rapporteur David Martin. C'est déjà une petite victoire. Il faut maintenant y arriver avec le groupe ALDE, arriver à diviser le groupe PPE des conservateurs, s'assurer que les Verts suivent et fassent pas suivent. Et 2-3 trucs comme ça. Et donc, si tout se passe bien, on aurait dans les quelques mois à venir l'occasion, chacun, d'intervenir sur les différents eurodéputés des différentes commissions en leur apportant des arguments implacables sur les différents aspects, industrie, liberté fondamentale, etc., en surveillant ce qu'ils écrivent, en les prévenant, en surveillant les amendements qui sont déposés, en les prévenant à la veille du vote que s'ils ne votent pas ça, on va être super pas content, et continuer à faire ce que l'on fait, ce travail de veille citoyenne, ce travail d'apporter nous-mêmes la transparence sur ce processus qui n'était pas, et mettre les eurodéputés face à leurs responsabilités. Je vous jure, ça marche. On a déjà des résultats là-dessus, et il s'agit de continuer. Dans les petits outils qu'on met à votre disposition pour faire ça, il y a un truc qui s'appelle « Mémoire politique ». C'est un site qu'on a bâti dans lequel on a fiché chacun des eurodéputés, et dans lequel on met des notes. On leur met des notes en fonction de leur vote précédent sur nos sujets. Donc vous voyez le nom d'un eurodéputé, vous le tapez dans mémoire politique, et vous voyez s'il y a du vert partout, c'est que c'est un gentil, s'il y a du rouge partout, c'est que c'est un taliban du copyright. Et on a mis en place un truc là qui s'appelle le PIFone, pi comme le pi de la quadrature du net, hein, et qui est un truc qui vous permet d'appeler gratuitement le Parlement européen. Vous mettez votre numéro de téléphone, vous cliquez, ça vous appelle et ça vous connecte, ça vous dit un petit message, voilà, vous allez être mis en relation, nana, appuyez sur la touche étoile. Et ça vous permet d'appeler n'importe qui, ça sélectionne quelqu'un au hasard parmi une liste que nous, on détermine comme étant la cible des gens à appeler. On vous met aussi sous les yeux quelques documents qu'il faut, il vaut mieux avoir lus avant d'appeler. Et voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui va continuer. Je vous invite à aller regarder laquadrature.net/acta, URL que vous trouverez sur tout flyer digne de ce nom. Je chambre. Et pour suivre l'actualité sur ce sujet. Mais, et avant d'ouvrir la discussion, j'aimerais attirer votre attention sur le fait suivant. ACTA, c'est devenu emblématique de cette politique répressive poussée sans cesse par ces industries, de la corruption du processus politique qui conduit à leur adoption. C'est en train de devenir un symbole. Ça fait des années qu'on y bosse et on est content d'y arriver. Mais ça n'est qu'une de ces offensives, de cette guerre contre le partage que mènent ces industries contre le public, contre nous. Je ne vais pas vous dérouler la plotte depuis le Audio Home Recording Act en 85, le traité OMPI de 96, le DMCA américain de 98, la directive EUCD de 2001, la directive IPRED de 2004, la directive IPRED 2 de 2005, donc la DATSI en France de 2006, l'ADOPI de 2009, j'en oublie. Mais vous voyez cet empilement de mesures répressives. Comme je vous l'ai dit, le commissaire européen français Michel Barnier a déjà annoncé son plan de modification du régime du copyright européen. C'est la modification de la directive dite IPRED. J'ai peut-être dit 2004 tout à l'heure, mais je crois qu'elle est 2003. Bref, on s'y perd. La directive IPRED. Et dans son annonce, il y a un mois et quelques, Michel Barnier disait « Ah, ben vous savez ce qu'il nous faut dans notre copyright, hein ? Vous savez, hein ?» Eh ben, il nous faut des sanctions pour les infractions à une échelle commerciale. Oh oui, oui, oui. Et puis il nous faut de la coopération. Ben oui, de la coopération. Pourquoi ? Ben pour prendre des mesures là, pour faire cesser les. Comment il disait déjà universal ? Oui, les infractions. C'est ça. Des mesures pour faire cesser les infractions. Donc Michel Barnier a d'ores et déjà prévu la transposition européenne de l'ACTA avant même qu'il soit accepté par le Parlement européen. Encore une fois, l'arrogance qui leur sera peut-être fatale. Et qui les conduit à ne même pas considérer l'opinion publique, ne même pas se poser la question une seule seconde de si ces mesures seront acceptables ou non par l'opinion publique, tant ils ont l'impression d'avoir les mains libres. Cette révision d'IPRED est annoncée, elle a été plusieurs fois repoussée, on l'annonce maintenant pour l'automne 2012, ça pourrait prendre un petit peu plus de temps que prévu, mais vous imaginez bien que si l'ACTA est envoyé devant la Cour de justice de l'Union européenne, que le Parlement choisit de s'interdire de voter avant un an ou deux, ben la révision d'IPRED va arriver entre-temps. Et ça va continuer. Et l'ACTA va changer de forme, va changer de visage. Et ça arrivera de toute façon. Donc, ce qu'il convient de faire dès aujourd'hui, c'est de commencer à regarder au-delà de l'ACTA, regarder au travers de l'ACTA. Si ça se trouve, la bataille de l'ACTA, en fait, on l'a déjà gagnée. Mais si c'était le cas, on pourrait de toute façon pas le savoir. Mais le fait que Karl de Gucht soit comme ça, en voyant des manifs, et envoie le machin au calende grec, alors qu'il y a 2 mois, il était là, ouais, il faut ratifier vite fait, là, parce que bon, là, ça urge et tout. ça prouve qu'on a déjà eu une influence. Et je vous garantis qu'il y a 2 semaines, quand j'étais au Parlement européen, en parlant à des gens dans tous les groupes politiques, des eurodéputés, des assistants, des staffeurs de groupe, tout le monde disait, si l'ACTA était voté là, maintenant, il serait mort. Donc évidemment, les choses peuvent changer 1000 fois d'ici au vote final. Mais si ça se trouve, cette bataille, on l'a déjà gagnée. Et c'est pour ça, entre autres pour ça, qu'il est important de regarder au-delà. Et regarder au-delà, c'est savoir, dès qu'arrivera l'offensive d'après, comment il va falloir la dégommer et ce qu'il faut demander en face. En allant voir le site de la Quadrature du Net, vous tomberez sur une page qui recense nos propositions. Parce que c'est bien gentil d'être toujours en opposition comme ça, mais au bout d'un moment, ça fait mal au bras de lever le poing. Et puis, on est aussi beaucoup plus crédible quand on arrive avec, d'un côté, le démontage en règle de quelque chose qui est sur la table et autre chose à poser sur la table à la place. C'est notre démarche. Et dans ce que l'on demande en matière de droit d'auteur, il y a une définition là qui est toute simple. Vous voyez, on nous parle de enforcement en anglais, donc mise en œuvre ou plutôt répression du droit d'auteur. Et on nous dit, oh ouais, là, on est obligé d'écrire ce machin à échelle commerciale. Ouais, bah oui, parce que comme ça, on comprend tout de suite de quoi il s'agit. Hein, on comprend tout de suite qui c'est, on comprend. Non, c'est un vecteur d'insécurité juridique. C'est un truc flou. Ça attaque les intermédiaires de pratiques culturelles qui sont tout à fait légitimes. On démontre par A plus B, la DOPI elle-même démontre que les gens qui partagent le plus de fichiers sur Internet sont ceux qui dépensent le plus. Et tous ceux parmi vous qui partagent des fichiers le savent. Quand vous regardez un film sur un écran comme ça et qu'il est bon, vous y allez avec 3 potes au ciné, vous en parlez à 10 personnes en disant « Tiens, ce truc, il est vraiment bien, il faut aller le voir au ciné. » Ou vous offrez le DVD à mémé. Ou quand vous écoutez un album, et ben, vous allez le voir en concert. Ou vous économisez des sous et puis après un autre jour, vous irez acheter des vinyles ou je ne sais quoi. La culture, plus on en a, plus on l'aime. Et plus on l'aime, plus on la finance. Au même titre que les gens qui empruntent le plus de bouquins dans les bibliothèques sont ceux qui achètent le plus de livres. C'est inéluctable. Ça, on doit l'imposer comme un message politique qui ne doit pas être négligé, qui ne peut pas être ignoré par les pouvoirs publics. Quand ils copient-collent le gloubi-boulga des industries en disant « Ouais, mais copier, c'est comme voler, et puis voler, c'est comme tuer la culture, et tuer la culture, c'est vraiment moche parce qu'on va tous mourir. » Quand ils nous font des conneries comme ça, non, il faut aller les voir avec des données chiffrées. Des données chiffrées, vous en trouverez aussi sur le site de la Quadrature du Net, sur lqdn.fr/p2pstudies, P2P studies, il y a une 20aine d'études scientifiques indépendantes qui démontrent ce que la DOPI elle-même a démontré, que les gens qui partagent le plus sont ceux qui dépensent le plus, qu'il n'y a pas de lien entre partage de fichiers et baisse des ventes de CD, que les CD est assez grand pour baisser tout seul. Et donc ça, c'est déjà quelque chose que l'on doit imposer dans l'opinion publique, chez le législateur. Quand on partage, on n'est pas en train de voler. Ce que vous appelez du piratage, c'est une nouvelle pratique culturelle. C'est à la fois l'accès à la culture pour tous, mais c'est aussi un moyen de recommandation des œuvres. C'est un moyen de faire exister des œuvres rares qui ne sont pas forcément représentées dans le mainstream, dans les grandes salles de ciné, sur les chaînes de télé. Et c'est un moyen de participer à la vie culturelle, comme prévu par l'article 27 de la Charte des droits de l'homme. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, pardon, qui dit « Tout citoyen a le droit de participer à la vie culturelle ». Donc ça, c'est le message de base. Partager, c'est pas voler. Et une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit que la grosse machine, les grosses machines qui veulent déployer pour donner à des Google ou à des Orange des pouvoirs de censure et des pouvoirs de sanction, des missions de police et des missions de justice, on n'en veut pas parce que cela attaque nos libertés fondamentales. Là, il y a une définition, je vous l'ai dit, qui est toute simple. On dit, si la contrefaçon, si la copie sans autorisation de l'auteur se fait avec un but de profit, dans un but commercial, alors on tape dessus. De la même façon que si on porte atteinte aux droits moraux de l'auteur, on utilise son œuvre sans mettre son nom, on tape dessus. Mais si la copie sans autorisation se fait par des individus et sans but de profit, alors c'est légal, point. Et on ne vient pas mettre la machine à censurer là-dedans. On ne vient pas donner des sanctions pour des gens qui, sans but de profit, copient des suites de 0 et de 1. C'est bête comme chou. Et à partir de maintenant, chaque fois qu'on va entendre parler d'un projet qui va toucher au droit d'auteur ou au copyright, on va débarquer avec nos gros sabots, ou avec nos masques de Guy Fawkes si on a envie, ou avec des masques de clown ou de Super Mario, ou j'en sais rien, et on va débarquer, on va leur dire ça, c'est très simple. Si c'est sans but de profit, vous n'y touchez pas. Parce qu'au passage, il y a des chances que ça serve à notre liberté d'expression. Vous voyez tous des remixes, des mash-ups, des vidéos d'un bout de machin avec un son de truc et avec un message en bas qui servent à des gens à véhiculer un message. Les ados dont on se plaint qu'ils ne maîtrisent pas forcément la grammaire du français comme on aimerait qu'ils la maîtrisent, ils maîtrisent un autre type de grammaire qui est celle de l'image et de l'image animée. Et ils sont capables de prendre une vidéo d'un film d'une intensité dramatique et rajouter une musique disco et des sous-titres déconnants pour en faire un truc drôle. Et aujourd'hui, avec un bout d'ordinateur qui vaut le prix de la ferraille, on est capable de s'exprimer au travers de la transformation d'œuvre, du remix, du mash-up. Et ça fait littéralement aujourd'hui partie de notre liberté d'expression. Donc au passage, en criminalisant ou en réprimant les usages sans but de profit, on va inévitablement restreindre cette liberté d'expression au travers des œuvres transformatives. Donc ça fait deux excellentes raisons, l'accès à la culture et la liberté d'expression, de ne pas toucher aux usages qui sont réalisés sans but de profit. Voilà, ça c'était le message que je voulais faire passer ici. Regardons au-delà de l'ACTA et continuons évidemment sur toutes les étapes de l'ACTA, parce que l'ACTA aujourd'hui c'est devenu un symbole à l'échelle globale. Et c'est une bataille qui est gagnable. Et que si on la gagne, on sera justement dans une position de force pour ensuite aller imposer nos demandes pour qu'ils arrêtent de nous casser les pieds avec cette répression aveugle dont les dommages collatéraux sont nos libertés fondamentales et un Internet libre, l'infrastructure du changement politique, l'infrastructure de l'amélioration de nos sociétés. Voilà. J'en déduis qu'il y a des questions. Plein. Alors, la question était pour l'enregistrement, est-ce que ça a été signé aux États-Unis l'ACTA ? Les États-Unis ont signé, oui. Et c'est très rigolo ce qui se passe aux États-Unis. Parce qu'il n'y a pas... aux États-Unis, ils ont dit, c'est simple, c'est un executive order. Donc un truc qui est dealé seulement par l'exécutif. Donc, vous, le Parlement, on ne vous demande pas votre avis. Mais les parlementaires, ils ont dit, ouais, mais on pourrait quand même, par exemple, je ne sais pas moi, avoir accès aux documents de travail. Ah non, c'est top secret. Pardon ? Ouais, c'est top secret, mais c'est un simple executive order. Mais mais circuler, il n'y a rien à voir. Donc, il y a des sénateurs aux US qui sont en train d'essayer de faire quelque chose contre ça. Ça a été signé comme ça. Comme qui rigole. Et la réponse qui a été donnée, et c'est très drôle, par le représentant au commerce US, c'est de dire, ouais, non, mais vous inquiétez pas, en fait, ACTA, c'est non-binding. C'est non-contraignant. On l'a signé, mais c'est non-contraignant. Ce sera contraignant pour tous les autres connards qui le signent, mais pas nous. Et en même temps, ils n'ont pas besoin d'être contraints, les États-Unis, parce qu'ils sont déjà en train de faire de l'ACTA chez eux, avec SOPA et PIPA. Parce que c'est l'endroit où, par définition, l'industrie hollywoodienne est la plus forte. Et qu'il n'y a pas besoin de s'attacher les mains dans le dos par un ACTA pour aller faire des mesures répressives qui sont les quatre volontés de l'industrie hollywoodienne. Mais c'est là qu'on voit l'hypocrisie des négociateurs et le piège qu'ils se sont eux-mêmes tendus à vouloir négocier un accord aussi vaste qui touche à autant de domaines à la fois, qui ne pourrait que être validé par des processus démocratiques, qui ne pourrait qu'être élaboré dans des processus démocratiques et pas seulement validés, et se retrouver à faire ça en douce, et dès qu'il y a la lumière dessus, bah, être bien, bien emmerdé. Il y a un micro. Monsieur. Bah, c'est enregistré, je crois.
Et ma question, c'est que devient la DOPI, et quelle est sa réaction du coup, face à l'ACTA ?
C'était la réponse. Non. Pour être un petit peu plus sérieux, et sans entrer dans les considérations de campagne électorale, je vous invite à vous documenter sur ce qui s'est passé avec la proposition numéro 45 d'un candidat d'un grand parti de gauche et l'influence néfaste que les lobbies du divertissement au travers d'un ancien ministre de la Culture habitant Place des Vosges à Paris, a pu réaliser au niveau des promesses. Donc normalement, au niveau des promesses électorales, c'est là où on donne tout, on rase gratis et plusieurs fois par jour. Et donc si à ce stade-là, les promesses ne sont pas fichues, de laisser la porte ouverte à ce que le partage soit légalisé et à ce que l'on mette en place un financement mutualisé de la création, mais que dès les promesses, les portes est fermée, ça laisse présager du pas forcément jojo, si, peut-être, éventuellement. Voilà. Donc on ne sait pas. Objectivement, la DOPI, il n'y a plus personne, même dans l'industrie du divertissement, qui y croit. La DOPI, c'est devenu une gigantesque machine à spam pour 12 millions d'euros par an. Mais, on était les premiers vraiment à s'en moquer à coup de lol et de même pas peur. On a sous-estimé l'impact psychologique de la grosse machine à communication et de la campagne d'intimidation qu'au bout du compte est la DOPI. Et les industries du divertissement, quand ils regardent l'effet à court terme, sont satisfaits de l'intimidation. Parce que la DOPI aussi, elle mesure ce qu'elle réprime, ce qu'elle pédagogise. Elle mesure ce qu'elle réprime et comme elle le réprime, du coup la mesure baisse. Donc on se dit youpi, c'est parce que les gens utilisent de moins en moins le peer-to-peer. Mais ça, en réalité, c'est un effet néfaste de la DOPI, parce que le peer-to-peer, c'est l'écologie sur le réseau internet. Le peer-to-peer, c'est la technologie verte. Le peer-to-peer, c'est quand des gens ont envie d'une œuvre, ont besoin d'une œuvre, tout le monde partage ses ressources, tout le monde mutualise ses ressources pour lesquelles il paye ses 30 euros par mois pour la rendre disponible, et youpia. De l'autre côté, il y a les machins polluants, style méga upload et compagnie, où il y a des grosses compagnies situées dans des paradis fiscaux, avec des types peu fréquentables qui les font tourner, qui affichent des pubs plus ou moins salaces, et qui vont faire, pour le coup, du profit sur le dos de la copie. Et c'est ça qui est stimulé par l'intimidation de la DOPI, parce que le public, le Pékin lambda, il se dit « je m'en fous, de toute façon, ma série, je vais la regarder, elle passe pas en France, ou j'en sais rien, ou j'ai envie de la regarder comme bon me semble. Si on me dit que je vais plus sur le peer-to-peer parce que le peer-to-peer, c'est mal, je clique à côté et puis je vais la regarder à côté. » Mais ça, en soi, c'est un effet néfaste de la DOPI. Après, savoir si la DOPI va rester, va survivre, bien malin celui qui saura le dire. Mais en quelque sorte, si iPred est révisé et transpose l'ACTA, à horizon 2012-2013, que la France a obligation de transposer l'iPred à horizon 2013, 2014, 2015, on aura cette riposte graduée 2.0 qu'est l'ACTA, où les Free, les Orange, les machins auront l'obligation de mettre en œuvre la coopération, les mesures pour faire cesser, etc. Et il n'y aura plus besoin d'une Adopi. Et les industries du divertissement pourront, du jour au lendemain, prendre leur téléphone et dire « Regardez, il y a un nouveau machin là-bas, méga Schtroumpf. Vous nous coupez l'accès à ça. Ouais, regardez, il y a un nouveau protocole, Bitto Schtroumpf. Ouais, vous nous enlevez ça aussi. Ah, puis vous enlevez ça. Et puis ça, 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 et puis ça. Puis il reste le site de Vivendi Universal au milieu, et c'est très bien comme ça. Donc, on est déjà dans l'après-Adopi. Et voilà, ma réponse en filigrane. D'autres questions, plein. Oui, une là-bas. Désolé, Rodolphe.
Alors, un petit commentaire d'abord. On le voit bien sur le réseau. La pédagogie Adopi, elle a bien disparu de l'opinion publique. Quand Megabidule s'est fait atomiser la gueule, en fait, tout le monde a rallumé le mulet. Hein. Donc, clairement, le peer-to-peer n'est pas mort et renaît. Question. On a parlé de promesses oubliées, abandonnées, réécrites et qui finalement veulent plus rien dire. Objectivement, sur la scène politique française, est-ce qu'il y en a un qui s'en est laissé pousser une paire et qui a les bonnes.
Les bonnes, pardon.
Les bonnes propositions sur le droit d'auteur.
Voilà. Non, vraiment, j'ai pas envie de me prononcer sur ces élections présidentielles. Tout simplement parce que, comme disait l'autre, en politique, les promesses engagent ceux qui y croient. Donc là, c'est la saison où on les lance en l'air. Et que nous, notre façon de faire de la politique, avec un petit p, hein, pas la politique P majuscule des politiciens, celle des citoyens qui s'intéressent à la vie de la cité et qui agissent, c'est la politique qui se fait entre les votes, pas juste avant ou pendant le vote. Donc ma réponse, en quelque sorte, c'est les promesses, on s'en fout, on regardera les actes. Et surtout, on demandera les actes qu'il nous faut. Et c'est ça qui est vraiment important. Moi, je suis convaincu que nos sujets sont transpartisans. Je me suis déjà vu aller parler avec des gens à la gauche de la gauche, à la droite de la droite, au milieu du milieu, des verts, des rouges, des bleus, des jaunes, des à pois, à rayures. Et il y a toujours un moyen de leur parler. Ce n'est pas que de faire du populisme à l'envers pour leur dire ce qu'ils auraient envie d'entendre, mais c'est il y a des arguments libéraux contre ces cochonneries répressives, comme il y a des arguments sociaux, comme il y a des arguments de souveraineté, comme il y a des arguments culturels. Et donc, voilà, il n'y a qu'à se baisser pour en ramasser. Donc, voilà, quelque sorte, qui que ce soit qui soit élu, et je pense là plutôt aux députés, au Parlement, qu'au président, bien que on pourrait parler du régime de la 5e, tout ça, il sera temps d'agir à ce moment-là. Et là aussi, c'est la démarche de la quadrature du net. Nous, c'est maintenant principalement au niveau européen que l'on agit, parce que très souvent, on se prend au niveau national des choses qui ont été décidées à l'Europe, et parce que le Parlement européen est d'une certaine façon quelque chose d'un petit peu plus drôle que le Parlement français, où il n'y a pas les rouges versus les bleus avec l'un qui dit merde à l'autre, mais bien voilà, une diversité politique qui fait qu'on a un petit peu plus de marge de manœuvre.
Une petite remarque. Tu disais toi-même tout à l'heure qu'il y aura toujours de nouveaux projets de loi qui vont arriver parce que l'industrie culturelle se fatiguera jamais pour proposer autre chose, pour aller dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a un moment où il ne faut quand même pas essayer de construire avec les formations politiques qui seraient disponibles, des projets alternatifs et quelque chose pour empêcher l'émergence de nouveaux projets de loi qu'il faudra sans arrêt combattre?
Alors, une réponse courte serait... la réponse longue, c'est nous, comme j'ai dit, on fournit des outils. Les outils, c'est aussi des outils analytiques. C'est aussi, par exemple, cette liste synthétique de nos propositions. Après, les partis sont libres de prendre, d'élaborer là-dessus, de regarder nos propositions, de regarder les propositions qui sont faites ailleurs, de faire leur mélange avec leur sensibilité. Et si un jour qui n'est pas à moins de 3 mois d'une échéance électorale, hein, parce qu'il ne faut pas non plus nous prendre pour des schtroumpfs, ils nous disent « Ah, on aimerait bien parler avec vous et vous poser des questions », et que c'est pas parler avec vous et vous poser des questions en face de nos militants pour dire « Regardez, c'est nos potes et tout », mais bien dans une optique constructive de travail, c'est rare qu'on refuse. Je suis même allé une fois parler avec quelqu'un à l'UMP, c'est pour te dire. Et il n'y a rien qui en est sorti. Hein. Mais lors de la Rodière, par exemple, on a bossé avec elle sur les questions de la neutralité du net. Elle a sorti avec Corinne Hérel, lors de la Rodière, députée UMP, ils ont sorti un bon rapport sur la neutralité du net. Donc là encore, nos sujets sont transpartisans. Après, je sais, de source sûre, que dans la plupart des formations politiques, il y a des gens qui s'intéressent à nos sujets, qui nous lisent, qui nous connaissent et qui sont capables de copier-coller ou de copier, élaborer ce que l'on fait. Dans le versant propositionnel, il y a quelque chose qui, à mon avis, est un élément majeur. Alors, c'est ironie du sort, Philippe Aigrin, qui est mon ami, collègue et cofondateur de la Quadrature du Net, avait écrit en 2009 cet ouvrage qui s'appelait « Internet et création », petite boutade sur création et Internet, qui est le nom officiel novlangue de l'Adopi, et qui était donc, voilà, un petit ouvrage de 130 pages qui décrivait cette fameuse contribution créative, dans le temps appelée licence globale, qui est un mécanisme de financement mutualisé, un petit peu à l'image de ce qu'on a fait avec la redevance copie privée sur les supports vierges, ou un petit peu plus loin ce qu'on a fait avec les radios, bref, un financement mutualisé. Ça faisait longtemps qu'on se disait, il faudrait le traduire ce truc, parce que c'est bien gentil de l'avoir en français, mais le reste du monde ne parle pas français. Et donc, il a bossé sur une traduction, puis s'est aperçu qu'il y avait des choses qu'il pouvait améliorer en fonction des commentaires, des critiques et tout ça. Puis, au passage, il s'est lancé dans une formidable étude de la diversité culturelle sur les réseaux peer-to-peer. avec un échantillon de données qui est 6 mois de fichiers partagés sur Emule, sur un gros serveur Emule, d'autres données, d'autres sources, pour démontrer qu'il y a beaucoup plus de diversité culturelle, évidemment, comme on le sait tous ici, sur le peer-to-peer que dans les rayonnages des sites commerciaux. Et en fait, c'est un bouquin tout à fait différent, qui fait maintenant 300 et quelques pages, et qui s'appelle Sharing, qui est en anglais, et qui vient de sortir aux éditions Amsterdam University Press, qui, j'espère, sera du coup retraduit en français, ce qui est pour le coup un petit peu ironique, mais qui aujourd'hui existe en anglais et qui est un socle propositionnel fort sur cette question du droit d'auteur et de comment organiser la légalisation du partage et le fleurissement de la culture au travers du partage. J'ai vu une question ici.
Voilà, je voulais savoir si on regardait dans une boule de cristal et si ACTA était ratifié, passé et donc fonctionné, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que vous feriez ?
Alors, il se trouve que ma boule de cristal est en panne aujourd'hui. Blague à part, on fait tout qu'est-ce qu'on aurait fait sinon, mais ça va être plus dur. Ouais. C'est-à-dire, si on défonce l'ACTA au Parlement européen, Barnier, déjà, il ne va même pas oser poser son projet de révision d'IPRED sur la table. On va se jeter dessus et on va obtenir dans le Parlement européen des beaux amendements, gros comme ça, tablés par 70 eurodéputés de tous les partis qui diront « Bon, là, on arrête les conneries. » Et ce sera facile. Si ACTA est adopté, Barnier, il arrive le lendemain, « Regardez ma transposition d'IPRED !» et nous fait de l'ACTA. Et là, on va aller voir les eurodéputés, on va leur dire « Ouais, vous ne voudriez pas faire un truc qui dirait un peu l'inverse ?» Et on va dire « Ben... » Nous, on voudrait bien, mais on est. Qu'est-ce que c'est que ce symbole bizarre ? C'est un geste mal placé. Mais on m'avait dit jusqu'à 20h15.
Non.
Hein ? Ah bon ? C'est vrai ? Non, vraiment déjà ?
Ils doivent préparer la séance suivante.
Mais on vient de commencer la conversation. Non, c'est vrai ? C'est vrai de vrai ? Ah mince, mais j'ai beaucoup trop parlé alors. Ah, c'est terrifiant. Non ! Please, no! 5 minutes. D'accord. Oh. D'accord. On va faire ça. Alors, vite, des questions, vite, s'il vous plaît. Vite. Ah, il y en a une, deux. Oui. Vite. La clé.
En plus, il faut que je sois clair, c'est, j'ai un peu la pression là.
Non.
Je découvre plein de trucs ce soir. Je me demandais, en fait, est-ce que tu parles d'industrie du divertissement, est-ce qu'ils ont tous les mêmes intérêts ? Ça me paraît fou parce qu'il y a plein de petits labels et eux, ils ont intérêt à ce qu'il y ait du partage, non ?
Ouais. Allez.
Justement, si on reçoit Jérémy Zimmermann aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas tous les mêmes intérêts dans ce qu'on appelle l'industrie du divertissement et que souvent, ces lois sont faites pour protéger la consommation de masse essentiellement. Et il y a de plus en plus d'acteurs dans les distributeurs cinéma de petite taille, dans les salles de cinéma comme les nôtres, qui se rendent bien compte depuis un moment que cette loi ne nous concerne pas vraiment et au contraire a tendance à aliéner nos spectateurs et à en faire nos ennemis. Donc c'est pour ça qu'on avait publié des communiqués contre Adopi à l'époque, on avait reçu Jérémy déjà en 2009 ici. Donc tout ça pour dire que non, il n'y a pas... Il n'y a pas une industrie. Il y a des gens qui aiment la culture.
Pour compléter ça, c'est la question des petits labels, des petits acteurs, mais aussi la question des artistes même, des petits artistes qui n'existent pas encore. Il y a une pression phénoménale qui vient de la part des gros. Et très souvent, les petits labels, ils sont adossés aux majors pour la distribution de leurs produits. C'est un problème politique.
C'est un problème de contrôle des tuyaux.
Et c'est un problème de contrôle, et c'est un problème politique. Et c'est, il n'y a que nous, le public, qui pouvons créer le climat favorable pour que les artistes osent prendre la parole, pour que les petits labels osent dire « Ouais, c'est vrai, il y en a un peu marre des conneries ». Mais là, aujourd'hui, il y a une sorte de chape de plomb maintenue par l'industrie.
C'est ce qui nous a amené à créer notamment Vidéo en poche, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est aussi un pied de nez à ces logiques-là, à ces lois, et d'essayer un peu de mettre un pied dans la porte, je crois que tu vas me dire.
Il y a une question ici et puis une question là-bas. Vite. Ah bon ? D'accord.
Au départ, vous avez évoqué l'industrie du médicament. Je ne vois pas bien le lien que vous pouvez faire là entre l'industrie du divertissement et l'industrie du médicament.
Je vous invite à aller lire sur le site de Médecins Sans Frontières leur analyse récente au sujet de l'ACTA. L'ACTA va pouvoir être utilisé par les labos pharma pour freiner la distribution de médicaments génériques au nom principalement du droit des marques et en utilisant les sanctions civiles dont je parlais, le préjudice qui peut être gonflé pour décourager les acteurs, et là encore avec les sanctions pénales, les intermédiaires de la distribution de médicaments génériques. Mais je vous invite à aller voir chez MSF, chez Oxfam, chez Health Action International et chez ACT UP Paris, qui ont beaucoup travaillé sur ces sujets au cours de ces dernières années. Et je crois qu'on a encore le temps pour une question et demie.
Ah, c'est pas réellement une question que je voudrais poser, mais c'est par rapport, quand vous parlez du mouvement citoyen, des gens qui se bougent dans la rue, qui levaient de bouclier, etc. Je me permets de prendre la parole et j'en profite que ce soit la fin. Et donc je vais faire assez vite. Sur Toulouse, il y a... Attends, je vais me lever. Sur Toulouse, il y a pas mal de mouvements... Il y a pas mal de mouvements qui... Bon, on bouge, c'est toutes les deux semaines, il y a des manifestations dans toute l'Europe, comme ça a été dit. Et donc voilà, donc sur Toulouse, ça bouge aussi. Il fut un temps, je ne sais pas si c'est toujours le cas, où on était la deuxième ville la plus mobilisée de France après Paris. Donc...
Non, deuxième, arrête.
Bon, on est peut-être passé troisième, quoi qu'il en soit, il fut un temps, on était la deuxième ville après Paris, ce qui est quand même pas négligeable. On a eu des liens avec les actions montpelliéraines, avec les actions de petites villes autour de Toulouse qui ne peuvent pas se permettre de faire des gros mouvements parce que trop petites. Donc voilà, on regroupe, on a la chance d'avoir ce genre de conférences ici aussi, que je ne sais pas s'ils ont dans toutes les villes. Donc, on a fait passer quelques tracts. Il manque une petite information, un petit lien Internet, il semblerait.
Non, mais c'est pas grave.
Mais ça va être rectifié dès ce soir, on vous le promet. On a bien compris le message. Donc voilà, on rectifie ça. Si vous voulez des informations, donc le tract qui nous en reste, on peut les faire passer. Il y a un site Internet qui a été ouvert où on traite de ces sujets, où on traite des différentes actions, des manifestations qui ont lieu toutes les deux semaines. Donc c'est pas ce samedi, ça va être le suivant. Le 31 mars, encore une fois, un mouvement européen. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous informer. Certes, venir ici, c'est bien, mais on peut aussi se bouger, comme on l'a dit, et ça peut faire, et ça peut, et ça fait flipper les... Alors, l'adresse du site, je ne l'ai pas exact... Anonymous-toulouse.fr. Alors, je tiens à informer que...
Je suis très
que...
fier de vous.
Pardon ?
Je suis très fier de vous.
Merci. Donc, je tiens à informer que, certes, on s'associe au mouvement Anonymous, mais simplement... Voilà, ça a l'appellation ALT, qui est aussi Anonymous Libre de Toulouse. Donc on peut absolument participer à tous les mouvements, toutes les manifestations, etc., sans porter le masque Anonymous.
Et c'est
sans
quoi
porter...
ton nom, déjà ?
Moi ? Appelez-moi Roger.
Bah, ça a été plus anonyme.
Appelez-moi.
Soyez libre, donc, de partager.
Avec plaisir. Merci.